N'hésitez pas vraiment de vous dire que nous sommes originaires, parce qu'on est à côté de Montpellier, dans une petite ville qui s'appelle Vadargue. Si vous prenez notre route, vous allez dans le sud, maintenant vous passez à Vadargue avant d'arriver à Montpellier. Voilà, donc je vais vous présenter. Donc je m'appelle Jean-Pierre Vandex. Donc nous sommes à Montpellier depuis un petit moment avec ma famille. Mon épouse n'a pas pu venir ce soir avec moi, parce que une réunion de femmes à l'église, donc elle est responsable de réunion de femmes, donc elle n'a pas pu venir. Mais par contre, je suis avec ma fille, donc Rebecca qui est là-bas, tout au bout à droite, ma droite. Donc nous avons 4 enfants, un garçon et 3 filles. Allez, viens, c'est Rebecca. Et nous sommes donc présentement dans une petite assemblée dans la région donc, de Montpellier. Alors, moi je suis serviteur de Dieu, c'est-à-dire que on a commencé chez nous à la maison il y a 2 ans, à la réunion. Et en ce moment, on travaille donc avec un pasteur qui a aussi une œuvre. Donc nous travaillons ensemble. Mais auparavant, nous étions donc dans la grande église de Montpellier, à Richter, ça s'appelle, la DD, environ 500 à 600 personnes. Donc, j'ai été responsable des ados pendant quelques années. Ensuite, on a changé d'église, on allait dans une autre ADD, pour différentes raisons. Et donc là, j'ai travaillé également dans le milieu de la jeunesse et au milieu des ados également. Donc, c'est un milieu que je connais bien. J'ai bien travaillé avec les ados et les jeunes. Voilà. Le Seigneur sait toute chose et il veut toucher les plus jeunes, comme il a touché nos cœurs à nous. Voilà. Et donc, ce soir, on va partager un thème. Alors, vous allez peut-être me le rappeler. Est-ce que vous vous souvenez du thème duquel on va parler ce soir?
Oui.
Amen. Vous pouvez le rappeler?
Ai-je fait les choses dans les normes?
Ai-je bien respecté les normes? Ai-je bien respecté les normes? Alors, avant de commencer, je vais vous solliciter. Hein. Je vais vous interpeller, vous poser des questions. Peut-être que c'est un outil de formation professionnelle, parce que je suis enseignant, je suis prof. Et donc, c'est vrai que quand on est prof, on interpelle souvent les gens pour poser des questions. Bon, je vais vous poser des questions, je vais vous demander, je vais vous solliciter pour que vous participiez également. Voilà. Et je vois qu'il y a pas mal d'enfants au milieu de nous. Alors, tout à l'heure, je vais appeler les enfants. Après, de vous, je vais vous appeler pour vous demander de me raconter une histoire, une certaine histoire que vous connaissez, les enfants. Donc, je vais vous interpeller dans quelques minutes. Voilà. Et nous rappeler l'histoire. Alors donc, on va parler des normes. Alors, ai-je bien respecté les normes? Alors, avant de commencer, je voulais vous poser la question, qu'est-ce que c'est les normes? Alors, quelqu'un peut répondre à la question, peut-être, pour nous faire avancer. Qu'est-ce qu'on appelle des normes? Quelqu'un le sait? Allez, pensez-vous. Qu'est-ce que c'est?
Manger, tiens,
oui.
C'est des règles à respecter.
Très bien. Alors, je regarde l'œuf, je n'ai pas demandé. Elle a dit des règles à respecter. Très, très bien. Oui, ce sont des règles à respecter dans le but de standardiser les modes de fonctionnement et de sécurité d'un produit ou d'une méthode. Très, très bien. Voilà. Alors, je vais prendre un exemple. Alors, donc, il y a des normes, c'est-à-dire qu'il y a des règles à respecter. Alors, excusez-moi un peu pour la voix parce que j'ai pris un peu froid, donc on va s'enrayer un petit peu. Alors, il y a des normes partout dans notre pays, en France. Alors, lorsque vous regardez, par exemple, les appareils ménagers, il y a des normes dessus. Il y a des normes françaises, des normes européennes, et puis des normes internationales. Alors, je prends un exemple. C'est très embêtant pour les gens, les fabricants de produits, qui ne respectent pas les normes. Je prends un exemple d'une feuille A4, par exemple, une feuille A4. On voit ce que c'est. On met dans l'imprimante, etc. Alors, supposez qu'un fabricant de feuilles se dise ben « Moi, je veux fabriquer mes feuilles sans respecter les normes. Je fais ce que je veux. Je veux fabriquer des feuilles pour les vendre. Mais je ne vais pas respecter les normes qui ont été établies. Alors, il y a des dimensions. On l'a fait A4A. Alors moi, je vais faire un peu plus grand que les feuilles habituelles. Alors, qu'est-ce qui va se passer concrètement? Alors, ces feuilles, eh bien, elles ne pourront pas rentrer dans certaines imprimantes. Vous comprenez? Voilà. Donc, il aura du mal, si ces feuilles ne respectent pas les normes, il aura du mal à les vendre parce que, eh bien, les feuilles ne pourront pas rentrer dans les imprimantes. Donc, ça va être très embêtant pour lui. Il a décidé de ne pas respecter les normes et il va avoir des ennuis. Voilà. Donc, ça, c'est un exemple de normes. C'est-à-dire que les feuilles, les feuilles A4, on doit respecter un certain standard, une certaine dimension. Alors, le fabricant qui ne respecte pas ces normes, eh bien, il aura des ennuis. Parce que, eh bien, sa feuille ne pourra pas, eh bien, être utilisée dans certaines imprimantes. Ça, c'est ce qu'on appelle les normes. Donc, il y aura des conséquences pour lui. Voilà. De la même manière, eh bien, dans la parole de Dieu, il y a des normes. Voilà. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, vous voyez qu'il y a des normes. Par exemple, pour devenir enfant de Dieu, il y a des normes. Voilà. N'importe qui, eh bien, n'est pas enfant de Dieu, qui veut, il y a une certaine démarche à faire. La nouvelle naissance, donc il y a différentes étapes. Voilà. Donc, il y a des normes dans la parole du Seigneur. Pour servir Dieu, il y a des normes. Dans la vie sentimentale, il y a des normes. Voilà. Donc, je ne vais pas m'étaler dessus, mais il y a beaucoup de normes. Et ce soir, je voudrais qu'on voit ensemble des normes de construction. Voilà. Des normes de construction. Alors, donc, les constructeurs, lorsqu'ils construisent une maison, il y a beaucoup de normes dont ils doivent tenir compte. Alors, malheureusement, on est dans un monde où, eh bien, la cupidité pousse certains constructeurs de bâtiments à ne pas respecter toutes les normes. Parce qu'ils veulent faire des économies. Donc, ils ne respectent pas souvent les normes de construction. Et moi, j'ai vécu l'expérience parce qu'il y a une dizaine d'années, on a fait construire une maison à Montpellier, dans la région de Montpellier. Et là, j'étais obligé d'être constamment sur le chantier après mon travail parce que, eh bien, si on laisse les constructeurs, eh bien, certains professionnels du bâtiment, pas tous, heureusement, mais certains professionnels du bâtiment, eh bien, ne respectent pas les normes parce qu'ils veulent, eh bien, gagner de l'argent sur les gens qui font construire. Voilà. Donc, eh bien, chaque soir après mon travail, et même dans la matinée, quand des fois je ne travaillais pas, eh bien, je passais sur le bâtiment pour vérifier que, eh bien, les matériaux qui ont été choisis, que nous avions choisis à l'avance, étaient bien ceux qui étaient utilisés, eh bien, pour la construction du bâtiment. Voilà. Donc, le non-respect des normes, eh bien, conduit à des catastrophes. Et dans la parole de Dieu, eh bien, celui qui ne respecte pas les normes, eh bien, établies, eh bien, il risque de s'attirer des ennuis. Donc, l'étude qu'on va faire, eh bien, va se diviser en deux parties. Premièrement, on va voir, puisque je vous ai parlé de normes de construction, eh bien, on va voir qu'il y a avant de construire, ou dans le processus, la première étape, eh bien, c'est de poser des fondements ou des fondations. Poser des fondations ou des fondements. Ensuite, la deuxième partie, eh bien, ce sont les matériaux utilisés pour la construction. Voilà. Première partie, on va voir le fondement, comment établir le fondement. Et la deuxième partie, quels sont les matériaux à utiliser pour la construction. Alors, pour ce faire, eh bien, on va se baser sur la parole du Seigneur. Parce que, eh bien, on va pas partir sur une parole humaine, mais c'est la parole de Dieu qui va nous guider. Alors, on va lire ensemble dans l'évangile de Matthieu. Au chapitre 7. Alors, Matthieu chapitre 7, verset 21. Okay. Jusqu'au verset 29. Matthieu 7, 21 à 29.
Je lis au nom de Jésus. Amen. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous en moi.
Oui. Ah, ça fait un peu court.
ceux qui me disent Seigneur, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, nous n'avons pas prophétisé en ton nom, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus, éloignez-vous de moi, vous qui commettez du mal. C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas écroulée, parce qu'elle est fondée sur le rocher. Mais toute personne qui entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique, ressemblera à un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle s'est écroulée et sa ruine a été grande. Quand Jésus eut fini de prononcer ces paroles, les foules restèrent frappées par son enseignement, car il enseignait avec autorité et non comme leurs spécialistes de la loi.
Amen. Amen. Merci. Alors, je vais compléter en lisant le même passage, cette fois-ci dans l'évangile de Luc, chapitre 6, verset 46. Luc 6, 46. Il y a un détail supplémentaire que nous pourrons dans l'évangile de Luc. Alors, Luc 6, 46. Alors, il a dit ceci, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ? Je vous montrerai à qui ressemble tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé bien avant et a posé le fondement sur le roc. » Alors, vous voyez donc le supplément qui est rajouté ici, donc à Luc, qu'est-ce qu'il nous a dit ? Il a creusé. Creuser bien avant et poser le fondement sur le roc. Voilà. Donc c'est le même passage, mais il y a un détail que nous ne trouvons pas dans l'évangile de Matthieu, qui se trouve ici. Il a creusé bien avant. Alors ce que je constate ici, c'est que Jésus, eh bien, il va utiliser une image de la vie courante pour parler aux disciples et à la foule qui était rassemblée autour de lui. Alors, tous ces auditeurs, eh bien, connaissent la maison. Ils savent comment bâtir une maison. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Lorsque Jésus dit, eh bien, il y a deux personnes qui ont construit une maison. Il y a un sage et un insensé. Eh bien, les auditeurs de Jésus, ils savent de quoi Jésus parle. Mais, je me pose la question, est-ce qu'ils ont bien... Tous ont pris l'enseignement profond que Jésus voulait donner au travers de ce passage. Voilà. Donc, évidemment, Jésus ne parle pas que de la maison. Il utilise cette image pour parler de choses assez profondes. Bâtir, eh bien, c'est aussi bâtir une vie. Bâtir une vie. Et je crois que vous qui êtes jeunes, on peut dire que vous êtes en train de bâtir votre vie. La jeunesse, c'est le moment où on commence à bâtir sa vie. Voilà. Donc, vous êtes en train de bâtir, donc c'est important de lire cette parole, la méditer pour voir l'enseignement profond que le Seigneur nous donne à travers de ce qu'il dit. Voilà. Et n'oublions pas d'ailleurs que nous sommes tous le temple de Dieu. Donc, si nous sommes un temple, c'est-à-dire que nous sommes quelque chose en construction. Voilà, en construction. Alors, il y a deux maisons dans ce passage. En apparence, elles se ressemblent. Elles se ressemblent en apparence. Mais en apparence seulement. Parce qu'il y a une différence énorme. Et bien, cette différence n'est révélée que par le temps. Alors, Jésus nous parle d'un homme insensé. Cet homme a bâti sur le sable. Alors, c'est plus facile de bâtir sur le sable, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'efforts à faire au départ. Alors qu'est-ce que c'est le sable ? Eh bien, c'est tout ce que le monde peut nous proposer. Lorsque nous bâtissons notre vie, c'est toutes les normes du monde, que nous pouvons utiliser. Mais celui qui bâtit sa vie en tenant compte des normes du monde, eh bien, il va à la catastrophe. Parce qu'il bâtit sur du sable. Alors, je ne sais pas si vous avez essayé déjà de prendre du sable dans la main et de serrer bien votre main. Qu'est-ce qui se passe? Il faut une boule, mais quoi d'autre? Le sable qui est sec. Vous allez à la plage, par exemple, prenez du sable dans la main, vous serrez, oui. Voilà, il va s'échapper, le sable va s'échapper. D'accord? Donc, il ne va pas rester, voilà, le sable va s'échapper. Donc, il file, il ne va pas s'échapper, il ne va pas rester. Voilà. Donc, lorsqu'on construit sa vie sur le sable, voilà ce qui va se passer, eh bien, ça va disparaître tôt ou tard. Voilà. Et Jésus nous dit que les éléments se sont déchaînés. Les éléments se sont déchaînés. Et cette maison n'a pas tenu. Parce que c'était censé, eh bien, il a voulu aller au plus vite. Il a dit, bon, moi je ne vais pas trop fatiguer. Eh bien, je vais construire simplement et rapidement. Et il a bâti donc sa maison. Voilà. Eh bien, bâtir notre vie sur le sable consiste à ne pas tenir compte de ce que Jésus nous dit dans sa parole. Voilà. Celui qui bâtit sa vie en dehors de Christ, eh bien, en réalité, il a bâti sur le sable parce que, eh bien, rien ne peut tenir sur le sable. Et Jésus dira, ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », eh bien, n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu. Voilà. Donc, réussir dans la vie sans avoir accepté Jésus, parce qu'on peut très bien réussir dans la vie. C'est-à-dire faire de brillantes études, avoir une bonne profession, un bon travail, avoir un foyer confortable, une maison confortable, c'est possible de le faire sans Jésus. On le voit autour de nous. Il y a beaucoup de gens qui réussissent dans la vie. Mais ils ne font que réussir dans la vie. Mais ils ne réussissent pas leur vie. Parce qu'il y a une différence énorme. Ces gens, ils n'ont pas bâti sur Jésus. Voilà. Eh bien, tôt ou tard, ces gens, eh bien, ils s'en mordront les doigts d'avoir essayé de bâtir sans Jésus. Alors, vous connaissez la parole de Dieu. Dans l'évangile de Luc, il y a un personnage, un riche, dont Jésus parle, le mauvais riche. Cet homme, eh bien, nous a dit qu'il menait brillante et joyeuse vie sur la terre. Et il y avait un pauvre couché à sa porte. Il s'appelle Lazare. Vous vous souvenez de ça? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Cet homme est mort. Il a été enseveli et il s'est retrouvé à quel endroit? Eh bien, dans un lieu de tourment. Il avait tout sur la terre pour être heureux. Et même, il avait des témoins à côté de lui. Mais il n'a pas voulu écouter ce qui a été dit. Et cet homme, eh bien, s'est retrouvé dans les tourments, dans l'éternité. Voilà. Et à un moment donné, il va dire, Père Abraham, envoie Lazare pour qu'il trempe son doigt dans l'eau et me rafraîchisse un petit peu le bout de la langue. Parce que j'ai tellement chaud ici. Et il va demander à ce que Abraham envoie, eh bien, Lazare sur la terre pour avertir ses frères et sœurs. Parce qu'il avait des frères et des sœurs. Donc, on voit bien que cet homme, il est décédé, il est mort, il a été enseveli, mais il a vécu une vie sans Dieu, donc il a tout perdu. Parce que Jésus dira, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Voilà. À quoi sert à un homme j'ai gagné le monde entier s'il perd son âme. Voilà. L'essentiel, eh bien, ce n'est pas sur la terre. C'est vrai, on est sur la terre pour un temps, mais à un moment donné, on va tous quitter la terre. On est des voyageurs. Tout le monde, qu'on soit chrétien ou non, à un moment donné, eh bien, on va partir dans l'éternité. Mais celui qui n'a pas construit sa vie sur Jésus, eh bien, il aura battu sur le sable parce que rien ne va rester. Voilà. Donc cet homme, il a tout perdu finalement. Alors, par contre, on a un deuxième homme, et bien celui-là est un homme prudent. On a vu dans l'évangile de Luc, il a creusé, c'est-à-dire profondément, avant de poser le fondement de sa maison. Et il a posé le fondement sur le roc. Alors, c'est pas facile. C'est pas facile de construire sur le roc, le rocher. Lorsqu'on cherchait un terrain pour bâtir à la région de Montpellier, eh bien, on a vu un terrain rocailleux. Eh bien, c'est difficile de bâtir sur un terrain rocailleux parce qu'il y a beaucoup de travaux de terrassement à faire. Et ça coûte cher. Donc, il y a un investissement au départ. Voilà. Par contre, elle est terrain plat, mais argileux. Et ceux qui construisent sur ces terrains, eh bien, ils ont souvent des difficultés, on le voit. Parce qu'avec le temps, eh bien, il y a des fissures dans la maison. Voilà. Donc, c'est facile de construire sur le sable, mais difficile de construire sur le roc. Mais cet homme prudent, eh bien, lui, il a fait le choix de construire sur le roc. Alors, savez-vous c'est qui le roc? Savez-vous ce que c'est le roc ici? Voilà. Le roc, eh bien, c'est Jésus. Voilà. Amen. Le roc, c'est Jésus. Et donc ça, ça nous montre que, eh bien, nous, en tant que constructeurs de nos vies, nous bâtissons notre vie, eh bien, nous devons impérativement choisir le bon terrain qui est Jésus. Voilà. Donc, creuser, c'est pas se contenter de ce qui est superficiel. Voilà. Cet homme, eh bien, il a creusé. Donc, il ne s'est pas contenté de bâtir sur la superficie, mais il a creusé profondément, il nous a dit. Voilà. Donc, ça, ça nous montre que, eh bien, il faut, eh bien, regarder à Jésus lorsque nous voulons construire notre vie. Et on a dit, le fondement, eh bien, c'est Jésus. Et c'est l'obéissance à la parole de Jésus. Voilà. Jésus a dit, je ne sais pas si vous avez remarqué dans le passage qu'on a lu, il nous a dit, celui qui écoute et met en pratique. Celui qui écoute et met en pratique. Il est semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Celui qui écoute et met en pratique. Donc je pense que vous avez souvent l'habitude d'écouter la parole. Il y a les enfants ici, il y a les jeunes, il y a les plus âgés, etc. Il y a plusieurs âges qui sont représentés ici. Eh bien, il ne faut pas être un insensé lorsqu'on bâtit sa vie. Il faut construire cette vie-là sur Jésus. C'est-à-dire celui qui écoute et qui met en pratique. Donc on peut très bien écouter sans mettre en pratique la parole de Dieu. Donc celui qui écoute sans mettre en pratique, eh bien, il est semblable à celui qui a bâti sur le sable. Sa maison ne tiendra pas. Par contre, celui qui bâtit sur Jésus, eh bien, il est un homme prudent. Alors, je vais prendre un exemple dans la parole du Seigneur, on ne va pas le lire. Je vais vous donner le passage, si vous voulez vous allez lire vous-même. Deux jeunes gens qui avaient un avenir radieux, splendide, devant eux, eh bien, ils n'ont pas respecté les normes de Dieu, et ces jeunes, ils ont tout perdu. Alors, on se trouve dans 1 Samuel, chapitre 2. On ne va pas le lire, hein. Vous le lirez parce que sinon on perdra beaucoup de temps. Donc, deux jeunes gens qui avaient un avenir radieux, eh bien, ils ont tout perdu en voulant se passer de Dieu. Ce sont deux frères, qui s'appellent Hophni et Phiné. Ils sont les enfants du sacrificateur Élie. Ils avaient tout dans la vie pour réussir. C'était leur père, eh bien, qui était dans le temple de Dieu. C'était le père, eh bien, qui était, on va dire, le conducteur spirituel d'Israël. Donc, ils avaient tout pour réussir leur vie. Mais ils ont raté la vie. Ils ont raté leur vie. Et ils ont mal terminé. Parce qu'ils ont choisi, eh bien, de bâtir leur vie sans tenir compte des normes établies par Dieu. Ils ont fait tout n'importe quoi. Et ils ont perdu leur vie. Ils sont morts dans des conditions misérables. Donc, pour les enfants qui sont au milieu de nous, pour les jeunes qui sont au collège et au lycée, vous devez préparer votre avenir en tenant compte des normes qui sont dans la parole de Dieu si vous voulez un jour, eh bien, bâtir sur le solide et rencontrer votre sauveur. Donc c'est important, vous êtes en train de bâtir votre vie, mettez tout en œuvre pour la réussir. Et pour la première des choses à faire, eh bien, c'est de bâtir sur Jésus. Donc lorsque vous entendez la parole du Seigneur, lorsque vous écoutez la parole proclamée par vos parents, les moniteurs, dans l'église, eh bien, vous devez mettre cette parole en pratique si vous voulez réussir votre vie. Voilà. Jésus a dit, la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. C'est facile sur la terre. On peut dire, celui qui a réussi dans la vie et qui a tout, eh bien, il mène une joyeuse vie On a les pressions. C'est une impression parce que, eh bien, quand on creuse, on se rend compte que on peut très bien avoir une fortune et ne pas être heureux. Il y a des gens qui ont une fortune, mais qui ne sont pas heureux dans la vie. Voilà, ils ne sont pas heureux parce qu'ils manquent l'essentiel. Voilà, ils manquent l'essentiel, et l'essentiel, eh bien, c'est Jésus. Voilà, donc, la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il de l'abondance. Voilà. Donc, par contre, on se rend compte que, eh bien, il y a des gens qui vivent simplement parce qu'ils ont trouvé un vrai trésor. Et Jésus nous a dit, construisez votre maison sur l'Europe. Et il nous a dit, par ailleurs, de tenir compte des normes de construction que lui, il a élaboré, parce que si nous bâtissons sans lui, eh bien, nous risquons d'avoir des ennuis. Voilà, sur la terre. Alors, Jésus a dit, un jour, dans la parole du Seigneur dans Josué, chapitre 1, verset 8, il a dit, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès. Voilà. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Voilà. Donc, c'est très important, lorsqu'on veut réussir, eh bien, de rester fidèlement attaché à la parole du Seigneur. Voilà. Agis fidèlement selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu, et c'est alors que tu auras du succès. Qui c'est qui veut avoir du succès? Qui c'est qui veut réussir dans la vie? Eh bien, vous devez bâtir sur Jésus. Voilà. C'est la seule chose qui compte. On peut très bien avoir tout dans la vie et ne pas être heureux. Voilà. Par contre, celui qui a bâti sa maison sur Jésus, eh bien, il mène une vie simple parce qu'il se contente de ce qu'il a et il vit simplement. Mais est-ce que ça veut dire que lorsqu'on est chrétien, eh bien, on doit être pauvre?
Non.
Est-ce que le chrétien doit être pauvre?
Non.
Non. Eh bien, parce que le Seigneur a dit, nous ne serons pas la queue, mais nous serons la tête. Donc, lorsqu'on a mis le Seigneur en priorité, il a dit lui-même, cherchez le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses vous seront données par-dessus tout. Voilà. Donc, celui qui a commencé à bâtir sa vie en comptant sur Dieu, eh bien, non seulement il a réussi sa vie, parce que, eh bien, lorsqu'il ira dans l'éternité, il rencontrera le Seigneur, mais déjà sur cette terre, il a aussi, eh bien, des bénédictions en abondance. Voilà. Donc, celui qui veut avoir du succès et qui veut réussir dans sa vie, mais c'est pas très compliqué, eh bien, il doit compter sur Dieu. Il doit poser sa vie entre les mains de Dieu. Voilà. Alors, les enfants, apprêtez-vous, bientôt je vais vous solliciter. Alors, on va passer à la deuxième partie. Alors, je pose la question, est-ce qu'il est suffisant d'avoir de solides fondations pour avoir une maison solide? Est-il suffisant d'avoir de solides fondations pour avoir une maison solide? Non. À votre avis?
Non.
Alors, pourquoi?
Faut l'entretenir.
Faut l'entretenir? Oui, sinon ça brouille. Voilà, il faut aussi des bons matériaux pour la bâtir. En ce moment, c'est la saison des tornades aux États-Unis. Si vous regardez un petit peu les actualités, vous verrez que c'est la saison des tornades aux États-Unis. Alors, qu'est-ce qui se passe?
Il y a plein de maisons qui se sont tombées.
Oui. Des maisons qui sont dévastées, qui sont détruites. Pour quelles raisons?
Le matériau ne convient pas.
Tout en bois, le matériau ne convient pas. Alors, par contre, lorsque vous regardez bien, vous verrez que il y a certaines maisons qui ont été bâties sur du solide. C'est-à-dire que la maison s'est évaporée après le passage de la tornade. C'est comme s'il y avait eu un tremblement de terre, la maison s'est évaporée, elle est partie en ruine. Mais, eh bien, la chape de béton est restée sur place. Vous voyez? Parce que, eh bien, la plupart des maisons américaines, pas toutes, heureusement, mais la plupart des maisons américaines, eh bien, sont bâties en bois. En tant qu'étudiant, j'ai été aux États-Unis, j'ai fait mes études aux États-Unis, j'ai resté pendant 3 ans. Eh bien, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de maisons qui étaient en bois. Voilà. Donc, la fondation, elle est solide parce que c'est bâti sur une chape de béton, mais le matériau qui a été utilisé, eh bien, n'est pas solide. Donc, lorsqu'il y a des ouragans, lorsqu'il y a des tornades, eh bien, ça balaye toute la maison. Et tout ce qui va rester, eh bien, c'est la fondation. Voilà. Donc vous voyez que ça ne suffit pas d'avoir bâti sur la fondation solide. Il faut aussi des matériaux solides. Voilà. Donc, on a vu que Jésus, eh bien, c'est lui le fondement. C'est Jésus la fondation. Le roc sur lequel on doit bâtir. Mais ça ne suffit pas. Parce que si on se contente de la fondation et qu'on ne construit pas dessus avec du solide, eh bien, la maison ne tiendra pas. Vous connaissez la parabole du semeur. Dans cette parabole, eh bien, Jésus nous parle d'un semeur qui a semé. Et on voit que il y a des graines qui sont tombées dans différents types de terrains. Alors, il y en a qui n'avaient pas, eh bien, le bon terrain, parce qu'il y a des semences qui sont tombées dans des pirailles, il y en a qui sont tombées parmi les épines. Qu'est-ce qui s'est passé pour ces semences tombées? Oui,
les ronces les ont envahies.
Eh bien, les ronces les ont envahies.
Étouffées.
Ou bien, étouffées. Celles qui sont tombées sur la pierre, qu'est-ce qui s'est passé?
Il n'y a pas eu de racines.
Voilà, elles ont levé, d'accord? Mais parce qu'elles n'avaient pas de racines. Lorsque le soleil s'est mis à briller, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, la plante a séché. Voilà, donc ça, c'est celui qui n'a pas de fondement, celui qui n'a pas de racines, lui qui a bâti sur le sable. Eh bien, il ne tiendra pas. Jésus dira, lorsque survient une épreuve à cause de la parole, eh bien, celui-là, il perd la foi. Voilà. Donc, c'est la même chose lorsqu'on a bâti, eh bien, sur du sable. Ou lorsqu'on n'a pas bâti avec du matériau solide. Parce que Jésus, lui, demeure. La fondation demeure. Mais celui qui a bâti et qui n'a pas tenu compte, eh bien, des solides matériaux, eh bien, il verra sa maison s'écrouler. Alors maintenant, je vais solliciter les enfants. Vous connaissez tous l'histoire des trois petits cochons. Qui c'est qui la connaît, cette histoire? Trois petits cochons. Tu peux venir, s'il te plaît? Viens nous rappeler. Oui, toi. Allez, rappelle-nous, s'il te plaît. Tu t'appelles comment?
Péniel. C'est l'histoire des trois cochons qui vivaient chez leur mère. Et leur mère leur a dit qu'ils sont trop grands, qu'ils n'ont qu'à partir construire leur maison. Chacun est parti de son côté. Un a construit une maison en bois, l'autre a construit une maison en brique et l'autre en paille. Et le loup est venu les attaquer. Donc il a soufflé sur la maison de bois. La maison de bois s'est évaporée. Le cochon a couru vers la maison de son frère qui avait construit une maison en paille. Le loup a soufflé sur la maison de paille et la maison s'est évaporée. Les deux cochons ont couru vers leur dernier qui avait construit une maison en brique. Donc le loup a soufflé sur la maison mais n'arrivait pas à l'évaporer. Puis c'est tout.
Bravo, merci. Voilà. La morale de cette histoire, c'est quoi finalement? Bâtir une maison solide. Sinon, lorsque l'épreuve survient, lorsque la difficulté survient, eh bien, notre maison ne tient pas. D'accord? Les deux premiers cochons, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont voulu aller trop vite. Ils ont voulu aller trop vite, comme l'homme est censé. Ils n'ont pas voulu souffrir. Ils n'ont pas voulu perdre beaucoup de temps. Ils ont dit, bon, écoute, on est dans un pays chaud. Il fait très bon. On est dans un pays chaud, il fait très bon. On n'a pas besoin de se casser la tête. On va construire rapidement notre maison. Et puis, bon, ils ont commencé, ils ont construit. Ça s'est vite passé, hein, très vite. Voilà, ils n'ont pas mis beaucoup de temps. Et ils ont regardé leur frère. Ils ont dit, mais celui-là, vraiment, c'est un insensé. Construis comme nous, fais comme nous, essaie de faire comme nous. Comment tu vas te fatiguer avec des briques, avec du ciment, tu vas chercher de l'eau, tu vas perdre beaucoup de laisse ainsi de suite. Voilà. Donc ils sont montés sur main de la fraie qu'ils construisaient. Et celui-là, il a dit, bon, c'est pas grave, moi je le construis. Et ça, ça me rappelle l'histoire aussi de Noé. Noé, qui, pendant qu'il bâtissait l'arche, il a pris beaucoup de temps de bâtir l'arche avec ses enfants. Mais le mec qui veut autour de lui, c'est pas possible. Celui-là, il construit l'arche au milieu du désert. Il n'y a pas de mer ici, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de rivière. Pourquoi il bâtit l'arche ici? Et il a bâti l'arche. Mais à un moment donné, eh bien, Dieu a donné le signal. Au signal de Dieu, Noé est rentré dans l'arche avec ses enfants, avec toute sa famille, et ça a été le déluge. Et bien les autres sont tous morts. Voilà, ils ont tous morts. Eh bien, cette histoire des trois cochons m'a toujours été un peu. Donc, lorsqu'on veut construire trop vite, lorsqu'on veut aller vite, sans tenir compte des normes de construction, voilà ce qui se passe. Et lorsque vous regardez quelquefois à la télévision, il y a des émissions qui nous parlent des gens qui ont des soucis énormes avec leur maison parce qu'ils ont confié la construction de leur maison à un constructeur qui a voulu aller trop vite et qui n'a pas voulu respecter les normes, et bien la maison ne tient pas. Les pauvres, ils sont en conflit depuis des années et ils ne peuvent pas habiter la maison parce que bien, la maison n'est pas étanche. Ils sont obligés et bien, encore de payer un loyer alors qu'ils ont fait construire une maison, ils payent deux loyers finalement. Donc les pauvres, ils souffrent. Parce qu'il y en a un qui n'a pas voulu respecter les normes. Ça a failli nous arriver. On a eu quelques soucis avec notre constructeur. On avait payé une partie. Il est parti en vacances avec l'argent. Et ça nous a posé des soucis. Et en plein hiver, on a failli se retrouver dans la rue. Parce que le constructeur n'a pas été sérieux. Le cas est là pour en témoigner. On nous a dit, voilà, il vous reste. Parce qu'on a signé le contrat en nous disant, le constructeur nous a dit, voilà, vous aménagez dans la maison, il n'y a pas de souci en septembre. Bon, nous, on était contents parce que en septembre, on allait aménager dans notre nouvelle maison. Et comme on habitait à cette époque à Montpellier même, mais que la maison était construite un peu à côté de Montpellier, à une dizaine de kilomètres de Montpellier, eh bien, on a inscrit nos enfants directement, parce qu'ils étaient encore petits, on a inscrit dans l'école, dans le village où on allait habiter. Donc, on était contents, on attendait que septembre arrive. Septembre arrive, on va visiter, le conseiller nous a dit, mais non, la maison n'est pas prête. Voilà. Donc, ils n'ont pas pu achever la maison parce qu'ils n'ont pas été sérieux. Et nous, ça nous a posé des problèmes parce que, entre-temps, il a fallu, eh bien, quand vous êtes en location et que vous devez quitter la maison, eh bien, vous devez donner congé. Voilà. Donc, nous, on avait envoyé un courrier pour dire, bon, ben, nous, on part en septembre, et le mois de septembre arrive, on ne peut pas partir. Donc on était coincé. Alors on a négocié avec le propriétaire. Donc il nous a dit, bon, on peut vous laisser encore un mois parce que la maison que vous occupez, elle est déjà louée. Il y a quelqu'un d'autre qui doit l'occuper. Mais le maximum, c'est un mois. Après un mois, ben, vous êtes obligé de partir parce que ben, ceux qui prennent la maison après vous, eh bien, ils arrivent donc, en octobre. Donc on attendait, confiant, en pensant que notre maison allait être prête. Eh bien, il n'a pas été prête en octobre non plus. Et nous, ça nous embêtait parce que, finalement, les enfants étant inscrits dans le village où on devait habiter, on était obligé de faire une dizaine de kilomètres tous les jours, tous les matins, pour les amener à l'école. Puisque, finalement, on n'habitait pas. Et ça durait. Alors, fin octobre, c'est toujours pas prêt. La maison n'est pas prête. Alors, et le constructeur, le propriétaire de la maison que nous louons, nous a dit, écoutez, nous, on peut plus regarder, vous êtes obligés de partir parce que là, il y a quelqu'un d'autre, eh bien, c'est toute une chaîne. Lui aussi, il louait un appartement, il a donné son congé. Comment on appelle ça déjà? Voilà, ça l'édite. Donc, il a donné sa l'édite. Lui aussi, il va partir parce qu'il y a d'autres qui doivent occuper sa maison, son appartement. Donc, il va prendre la maison que vous occupez maintenant. Donc, vous êtes obligé de partir. Donc, on était dans la rue. Voilà. Et il faisait un froid, pas possible. Cette année-là, ça fait une dizaine d'années qu'on a Montpellier. Je crois que c'est l'année où il a fait le plus froid. Voilà. Donc, on s'est retrouvé du jour au lendemain sans solution. Parce que Edith n'a pas été sérieux. Donc, lorsque le constructeur n'a pas été sérieux, eh bien, il y a toute une cascade de choses pour l'homme qui peut nous causer. Donc, on voit que, mais heureusement, le Seigneur est intervenu d'une manière miraculeuse pour nous. Au dernier moment, le Seigneur est intervenu. On a pu avoir une maison. Donc, on a passé encore 2 mois. Donc, la maison devait être livrée en septembre. Et bien, ça a été livré en janvier. Voilà. Donc, on a Alors vous voyez que ça a beaucoup de conséquences sur notre vie. Heureusement que le Seigneur a ouvert les portes pour qu'on puisse avoir une autre maison. Donc, des fois ça prend du temps pour construire, mais il vaut mieux prendre son temps pour bien bâtir. Comme ce troisième petit cochon qui a pris son temps, qui a bâti une maison solide. Lorsque le loup est arrivé, eh bien, il a pu être protégé. Non seulement lui, il a pu être protégé, mais ses deux frères négligents ont été également protégés. Voilà. Donc, ne soyez pas négligents lorsque vous bâtissez votre vie. Bâtissez sur le Seigneur Jésus.
Amen.
C'est la seule solution.
Amen.
Alors, on va lire ensemble un passage qui nous parle de cela également. Dans 1 Corinthiens, vous allez voir que la parole de Dieu nous parle de construction. Donc, on a déjà vu le premier passage où Jésus lui-même nous dit de bâtir notre maison sur du solide. On va lire dans 1 Corinthiens chapitre 3. Verset 12. On va lire à partir du verset 10. Corinthiens chapitre 3, verset 10. Allez, je vais te solliciter pour lire. Tu as quelle version de la Bible? Second?
Tiens. Ok, très bien. Merci.
Alors, 10 à 13.
3. Verset 10. Conformément à la grâce que Dieu m'a donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre construit dessus. Cependant, que chacun fasse attention à la manière dont tu construis dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a posé, que celui qui a été posé. À savoir Jésus-Christ. Que l'on construise sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin ou de la paille. L'œuvre de chacun sera dévoilée. Le jour du jugement la fera connaître. Car elle se relèvera dans le feu et l'épreuve du feu indiquera ce que l'œuvre de chacun. Ce que vaut l'œuvre de chacun.
Vas-y pour la séquence.
Si l'œuvre que quelqu'un a construite sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si son œuvre brûle, il perdra sa récompense. Lui-même sera sauvé, mais comme au travers d'un feu.
Merci. Voilà. Ça vous rappelle rien, ça? Ça vous rappelle rien? Alors, vous avez bien, il nous a dit. Donc, il a posé le fondement. On nous dit, il a posé le fondement. Alors, il dit, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement. Alors, le fondement, eh bien, c'est Jésus-Christ. Il vient comme un sage architecte et l'autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Donc on voit ici que le fondement, eh bien, c'est Jésus-Christ, notre Dieu, notre Seigneur. Voilà. Mais Paul dit que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Donc on voit que le fondement est déjà posé. Donc on peut se dire, bon, à partir de là, je peux construire avec n'importe quel matériau, ben c'est bon. Mais non, ça ne suffit pas. Or, si quelqu'un bâtit, verset 12, or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Voilà. Donc, vous voyez, ici, il nous a parlé de bois, de foin et de chaume. Ça, ça me rappelle l'histoire des trois petits cochons. Voilà. Donc, ils ont bâti sans prendre le temps eh bien, de sélectionner le bon matériau. Voilà. Alors, les matériaux donc, qui sont mentionnés ici, on peut les diviser en deux catégories. Alors, le premier type, alors, où est-ce qu'on les trouve? Le chaume, c'est la paille, le foin et le bois. Alors, où est-ce qu'on trouve ce matériau? Où est-ce qu'on les trouve? Oui.
Dans la nature.
Dans la nature, ok. Ah, où ça, précisément dans la nature? Le champ, ok, très bien.
C'est quoi la question?
Alors, la question, donc, c'est les trois matériaux qui ont été cités en dernier, donc je l'ai dit, le chaume, le foin et le bois. Voilà. Ces trois matériaux se trouvent quelque part. Donc quelqu'un a dit dans le champ, très bien. Alors, réfléchissez bien. Où donc? La forêt aussi, ok. Et dans les bois. Ok, très bien. Alors, ce que je veux dire ici, c'est que eh bien, ces trois matériaux se trouvent en surface. Ce sont des matériaux qu'on trouve en surface. C'est-à-dire, le chaume, c'est la tige des céréales. Lorsque le blé, par exemple, a été fauché, eh bien, la tige qui reste, c'est ça le chaume ou la paille. Le foin, eh bien, ce sont les herbes de prairie qu'on coupe pour donner au bétail. Et puis le bois, tout le monde connaît le bois. D'accord ? Eh bien, ces matériaux se trouvent en surface. Si vous les comparez aux trois autres qui ont été cités au départ, il y avait quoi ? De l'or, de l'argent et des pierres précieuses. Vous voyez ? Donc, on peut diviser ces six matériaux en deux catégories. La première catégorie se trouve en surface. C'est-à-dire qu'on ne fait pas d'effort. On peut le trouver facilement. Le chaume, le bois et le foin sont des matériaux de superficie. Donc ça, eh bien, celui qui bâtit avec ce genre de matériaux, eh bien, construit d'une manière superficielle. Qu'est-ce qui nous est dit ? Que le feu, eh bien, à l'épreuve du feu, eh bien, ces matériaux ne résistent pas. Voilà. À l'épreuve du feu, eh bien, ces matériaux n'ont pas résisté. Voilà. Eh bien, ça, c'est celui qui a bâti sur le sable. Ou qui a posé les fondements, mais qui n'a pas pris le soin, eh bien, de choisir le matériau qu'il fallait. Et donc ça, Paul le dit, lorsque le feu arrive, eh bien, ces matériaux vont brûler. Ils ne vont pas résister. Alors, pour nous, l'application, c'est que nous ne devons pas construire sur du superficiel. Notre vie ne doit pas être une vie superficielle. Notre vie spirituelle ne doit pas être superficielle. Alors, qu'est-ce que c'est une vie superficielle ? Eh bien, c'est une vie qui n'est pas profonde et en surface. Par exemple, Jésus a dit, celui qui écoute la parole et qui la met en pratique, il est semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Mais celui qui n'est pas prudent, donc c'est un insensé, il a bâti sur le sable. Voilà. Donc, lorsqu'on a une vie qui n'est pas bâtie sur Jésus, on ne prend pas le temps de méditer la parole du Seigneur, on l'entend, on la lit, mais on est pressé, on va vite, eh bien, on ne creuse pas pour voir l'enseignement profond que Jésus veut nous donner. Et pour voir ce que le Seigneur veut pour nous. On avance et on se dit, oh, c'est bon, j'ai lu, j'ai pris 5 minutes, ça devient de la religion. Voilà, c'est de la religiosité. Et ça, c'est superficiel. Voilà, une vie superficielle, eh bien, ça n'a pas de rien. Et ça ne tient pas. J'ai cité tout à l'heure le passage où Jésus parle du semeur. Eh bien, la semence qui est tombée dans les pierres ou dans les épines, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, ça a poussé. Mais ça a été étouffé par les épines ou ça n'a pas de racine et ça a séché à l'épreuve du soleil. Donc, lorsqu'on a une vie spirituelle superficielle, eh bien, elle ne tiendra pas. Voilà. Donc, pour vous qui êtes en train de bâtir votre vie, qui êtes jeune, elle est très jeune ici, il y a des ados, il y a des jeunes aussi, eh bien, votre vie doit être eh bien, une vie profonde, si vous voulez qu'elle tienne. Voilà. Donc, ne vous contentez pas d'une vie superficielle, parce que, eh bien, elle ne pourra pas résister aux épreuves de la vie. Le feu, c'est quoi ? Le feu ici, c'est l'épreuve. Nous sommes dans un monde dans lequel, eh bien, il y a l'épreuve. Qui c'est qui n'a jamais connu une épreuve ici ? C'est peut-être pour les plus jeunes encore, qui sont encore avec papa et maman. Mais sinon, pour les autres, à partir de l'adolescence déjà, eh bien, les problèmes eh bien, sont énormes. Voilà, on le voit tous les jours. Donc, ne bâtissez pas votre vie sur du superficiel parce que les épreuves de la vie sont là. Et on le voit, même il y a des jeunes qui sont nés dans l'église, dans des familles chrétiennes, mais qui ne résistent pas à l'appel du monde. Parce qu'il y en a un qui ne veut pas que vous restiez attachés au Seigneur. Donc l'ennemi fera tout. Il mettra des bâtons devant vous pour essayer de vous faire chuter, des pots de banane, vous faire glisser. Paul dira, dans la parole du Seigneur, il y a des gens, il y a des chrétiens qui ont fait naufrage. Ils ont fait naufrage dans la foi, dans le foie. Pour quelle raison? Parce qu'ils n'avaient pas une vie solide. Voilà, un jour ils étaient au sommet, et puis le deuxième jour ils étaient dans la pente. Voilà, un jour ils sont au sommet, le deuxième jour dans la pente. Lorsqu'on a une vie en dents de scie, eh bien ça ne tient pas. Pas une vie solide. Voilà. Donc baptisez votre vie et bien utilisez des matériaux solides.
Amen.
Sinon ça ne tiendra pas. Amen.
Amen.
Utilisez sur le solide. Le fondement il est solide parce que c'est Jésus. Il ne change pas, ne bouge pas. Mais n'utilisez pas n'importe quel matériau. Ce que le monde propose ne peut pas vous amener loin. Il ne résistera pas. Donc construisez en tenant compte des normes de Dieu. Voilà, les normes de Dieu sont les meilleures. Voilà. Donc, le premier type de matériaux, ici, c'est superficiel. Voilà. Ce sont les valeurs sur lesquelles le monde est fondé. Voilà. Ensuite, le deuxième type de matériaux. Alors, vous avez vu quels sont ces matériaux qui sont cités?
Alors,
l'or,
l'argent et la pierre.
Voilà.
Eh bien, ces pierres précieuses, l'or, l'argent, peuvent passer dans le feu, eh bien, ils ne vont pas se détruire. Au contraire, eh bien, ils seront purs, ils seront purifiés. Le feu permet de purifier l'or et l'argent. Voilà. Donc, si vous bâtissez avec ce genre de matériaux, eh bien, c'est du solide, ça tiendra. Alors, vous avez regardé un petit peu, où est-ce qu'on trouve ces matériaux?
Dans la
en profondeur. Ces matériaux se trouvent en profondeur. Voilà, ils se trouvent en profondeur. Celui qui veut trouver de l'or, eh bien, il est obligé de creuser. On ne trouve pas de l'or à la surface de la terre, c'est pas possible. Voilà. Celui qui veut trouver des minéraux d'argent, il est obligé de creuser. Celui qui veut trouver des diamants, il est obligé de creuser. On ne peut pas les trouver à la surface de la terre. Vous comprenez ça? Voilà. Eh bien, le Seigneur nous donne ces images pour nous montrer que, eh bien, si nous creusons, d'ailleurs il est dit, celui qui a bâti dans l'évangile de Luc, on a lu, eh bien celui, l'homme sage, il a creusé en profondeur et il a bâti sa maison sur le roc. Voilà. Donc, si nous creusons, creuser ici, c'est aller en profondeur dans notre relation avec Dieu.
Amen.
Alors, on doit avoir une relation profonde avec Dieu,
amen,
pas superficielle, se contenter simplement d'une réunion de temps en temps. Ça ne tient pas, ça ne suffit pas. Parce que le monde ne fait pas de cadeaux. L'ennemi, il est déchaîné. Il veut la ruine des enfants de Dieu. Mais est-ce qu'on va tenir? Est-ce qu'on va tenir? Et si nous bâtissons sur le roc avec des matériaux solides, eh bien, quelles que soient les épreuves, vous voyez qu'il y a eu l'épreuve, le feu, pardon, la tornade est arrivée. Les éléments sont déchaînés contre cette maison, mais elle a tenu bon. Elle a tenu bon, parce qu'elle est bien construite, elle est bien bâtie. Voilà. Donc, c'est important. Il faut que nous soyons enracinés en Jésus. Voilà. Donc, je vous encourage, vous qui êtes en train de bâtir votre vie, eh bien, tenez compte des normes de construction énoncées par la parole du Seigneur. Voilà. Et il y a plusieurs domaines dans lesquels nous pouvons bâtir. Quels sont les domaines dans lesquels nous pouvons bâtir notre vie? Donc, premièrement, évidemment, il y a le domaine spirituel. Voilà. Donc, nous bâtissons notre vie spirituelle. C'est la première des choses. Jésus a dit que celui qui le cherche en premier, eh bien, celui-là, eh bien, il a trouvé, il a trouvé du solide. Et il a investi un trésor dans le ciel. Mais celui qui construit avec les normes du monde, eh bien, la teigne et la rouille détruisent les choses de ce monde. Alors, nous ne devons pas donc bâtir sur du bien sable. Donc, eh bien, nous tenons compte de ces normes-là et notre richesse se trouve dans le ciel. Voilà. Donc, la première des choses, eh bien, c'est notre vie spirituelle que nous bâtissons. Voilà. Donc, cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu et toutes les autres choses vous seront données. Voilà. Donc, premièrement, c'est la justice de Dieu, c'est le roi de Dieu. Voilà. Donc c'est notre vie spirituelle que nous bâtissons. Alors qu'est-ce qu'on peut bâtir d'autre après ça? Lorsqu'on a eh bien, bâti sa vie spirituelle, lorsqu'on a fondé sur du solide, on bâtit plusieurs choses. Donc, il y a premièrement son avenir, Alors, vous êtes jeunes, là, vous êtes encore soit à l'école, certains qui sont très jeunes, ou au collège, ou d'autres, au lycée, ou certains, à la fac, ou dans les instituts de formation pour d'autres également. Donc, on bâtit aussi son avenir. On bâtit aussi son avenir. D'ailleurs, on construit notre vie dans ce monde. Parce que Jésus ne nous a pas demandé d'être des paresseux. Voilà, les enfants de Dieu ne sont pas des paresseux. Ils doivent construire leur vie. Voilà, pour cela, eh bien, il faut qu'ils aillent à l'école. Voilà. Il faut qu'ils aillent à l'école, il faut qu'ils travaillent, ils trouvent du travail. Donc, on ne va pas être les mendiants. Voilà. La parole de Dieu nous dit que nous ne sommes pas des mendiants. D'accord ? Et que, au contraire, nous serons, non pas la queue, mais la tête. Donc, vous qui êtes enfants de Dieu, eh bien, si vous avez donné votre vie à Dieu, vous êtes devenus des enfants de Dieu. D'accord ? Vous ne serez pas la queue, mais vous serez la tête.
Amen.
Voilà. Pourquoi est-ce qu'on va laisser les gens du monde, eh bien, profiter de toutes les richesses du monde ? C'est notre Dieu qui a créé la richesse.
Alléluia.
Alors, pourquoi on ne va pas en profiter, nous, en tant qu'enfants de Dieu ? Voilà. Donc, vous voyez que, lorsque vous lisez la parole du Seigneur, vous voyez que Salomon est un homme riche. Mais qu'est-ce qu'il a demandé en premier à Dieu ? La sagesse pour quoi faire ? Eh bien, pour conduire le peuple de Dieu. Il a demandé la sagesse pour conduire le peuple de Dieu. Donc, les priorités, c'était quoi ? C'était l'œuvre de Dieu. Voilà. Mais quand on regarde sa vie, eh bien, c'était un homme immensément riche. Et il nous a dit que du temps de Salomon, eh bien, l'argent était comme les pierres dans les rues de Jérusalem. Parce qu'il y avait plein d'argent. Ça traînait. On ne s'en occupait pas. Voilà, ça n'avait plus de valeur. Tellement il y en avait en abondance. On pouvait marcher sur l'argent. Voilà. C'est extraordinaire quand même, hein, quand vous lisez ça. Donc le peuple de Dieu, c'est pas un peuple misérable. Alors vous qui êtes jeune, vous avez, après avoir mis les priorités dans la construction de votre vie spirituelle, eh bien, allez à l'école, d'accord ? Allez à l'école, construisez votre avenir, trouvez du travail, parce que les enfants de Dieu ne seront pas à la queue, mais à la tête. Parce que le Seigneur, il a un avenir pour chacun d'entre nous. Voilà, donc on doit aussi bâtir sa vie dans ce monde. Parce que nous savons que le Seigneur revient bientôt. Mais en attendant qu'il revienne, est-ce qu'on va être des mendiants dans la rue ? Non. Donc, eh bien, pensez-y. Gardez votre foi en Dieu. Ne vous laissez pas détrôner. D'accord ? Mais construisez aussi votre vie de tous les jours. Ensuite, lorsque vous avez construit ça, logiquement, la troisième étape qui vient, c'est qu'il y en a qui sont peut-être à ce stade-là, eh bien, trouvez un conjoint. Trouvez un conjoint. Amen. Il y en a qui ont trouvé un conjoint ici.
Amen.
Amen. Il y en a qui ont déjà un conjoint, il y en a qui cherchent sur la recherche. Mais que vos cœurs soient en paix. Le Seigneur pourvoira au temps convenable.
Amen.
Pour bâtir, eh bien, sa vie de couple, il y a aussi des normes à respecter. Il y a des normes à respecter. Est-ce que le Seigneur nous interdit d'avoir des fréquentations dans le monde ? On rencontre des gens dans le monde. D'accord ? Mais celui qui s'allie aux gens du monde, tôt ou tard, il risque d'avoir des ennuis. D'accord ? Alors, les normes sont simples. On les trouve dans la parole du Seigneur. Lorsque Abraham a voulu, eh bien, une épouse pour son fils, qu'est-ce qu'il a fait ?
Il a envoyé son serviteur.
Il a envoyé où donc ?
Dans sa famille.
Dans la maison de sa, dans la maison de sa famille, hein. Dans sa propre famille, dans son pays d'origine. Parce qu'il ne voulait pas que ses enfants prennent des conjoints dans le monde dans lequel il était. Voilà. Dans le lieu où il était. Donc il les a envoyés, il a envoyé son serviteur chercher une épouse pour son fils. Alors, vous voyez qu'il n'est pas allé n'importe où. Il n'est pas allé n'importe où, il est allé dans le pays d'Abraham. Abraham dit, il habite pas dans le pays. Et pour nous qui sommes enfants de Dieu, eh bien, notre pays, notre famille, c'est la famille de Dieu. Voilà. Mais on voit que ce serviteur, quand il est parti, il aurait pu se dire, bon, maintenant je suis dans la famille, dans le pays de celui qui m'a envoyé, de mon maître. Voilà. Donc je prends n'importe quelle fille et puis je m'en vais. Je prends la première qui vient et puis voilà, je m'en vais. Mais il n'a pas fait ça, il a prié voilà, pour que le Seigneur le conduise. Et il a mis des critères. Voilà, il a donné des critères à Dieu. Et on voit que, eh bien, Dieu a tenu compte de ces critères-là. Parce qu'il a trouvé une femme pour le fils de son maître. Voilà. Donc, on ne peut pas aller n'importe où. Faites attention. Si vous mariez avec quelqu'un qui n'est pas chrétien, on voit que dans la parole du Seigneur, Paul va donner à un moment donné des conseils. Il va dire que celui qui est déjà marié avec quelqu'un du monde, qui ne connaît pas Dieu, que l'enfant de Dieu ne rompt pas ce mariage-là. D'accord ? Parce qu'il dit que, qui sait si, au travers de ta sainteté, tu ne vas pas attirer cette personne au Seigneur Jésus. Mais ceux qui ne sont pas déjà mariés et qui n'ont pas encore trouvé le conjoint, doivent chercher leur conjoint dans la maison de Dieu.
Amen.
Amen. On doit chercher son conjoint dans la maison de Dieu parce que on peut très bien trouver quelqu'un. On peut se dire, on peut trouver quelqu'un, un conjoint en dehors. Mais puisque vous n'avez pas les mêmes priorités, le jour où vous aurez envie d'aller servir le Seigneur, il y a un téléphone qui sonne. Lorsque vous aurez envie d'aller dans la présence de Dieu pour célébrer le Seigneur, qu'est-ce qu'il va dire votre conjoint qui n'a pas les mêmes priorités que vous? Bah, il va vous demander d'aller, je ne sais pas moi, aller vous balader, aller dans les bois, aller faire autre chose, aller faire une promenade. Ah, mais c'est long, la réunion, on ne peut pas aller à la réunion tous les jours, c'est pas possible. On ne peut pas aller à la réunion dimanche matin, c'est pas possible, il faut se lever. Il faut aller au ski. Donc lui, il va avoir des priorités qui ne seront pas les vôtres. Voilà. Il faut aller, ailleurs. Voilà. Donc ces priorités ne seront pas les vôtres. Donc vous, au départ, vous allez dire, bon ok, je m'en vais quand même à la maison de Dieu, rencontrer mon Seigneur, rencontrer les chrétiens. D'accord ? Mais au fur et à mesure que le temps va passer, vous allez voir que vous allez tirer. Voilà. Donc, ce qui risque de se produire, eh bien, c'est que c'est le non-chrétien qui risque d'attirer la personne qui est convertie. Voilà. Et on le voit fréquemment. C'est arrivé fréquemment. Voilà. Il y a des gens qui ont voulu jouer avec le feu et qui sont brûlés les ailes. Voilà. Donc, c'est important eh bien, de pouvoir construire son couple en tenant compte des critères de Dieu, en tenant compte des normes qui sont établies par Dieu.
Amen.
Eh bien, attendez, priez, ouvrez les yeux, vous êtes dans la maison du Seigneur, le Seigneur vous conduira vers la personne qu'il faut, la personne qui convient de vous. Donc, vous voyez que ce n'est pas simplement la construction d'une maison physique. Quand Jésus parle d'une maison, construit cette maison, eh bien, c'est très large. Voilà, c'est en profondeur. Il y a beaucoup de choses. Voilà. Donc, ensuite, on a une maison, d'accord ? Mais on a bâti son couple, donc, mais aussi, il y a les enfants qui arrivent derrière. Voilà. Donc, ça aussi, c'est important de pouvoir, eh bien, tous ceux qui sont déjà mariés et qui ont des enfants, de pouvoir, eh bien, aussi éduquer les enfants selon les normes de Dieu.
Amen.
Amen. Amen. Voilà. Les enfants feront leur choix plus tard. Et on se rend compte qu'en étant chrétien, même famille chrétienne, ce n'est pas toujours évident. Parce qu'il y a des gens, des enfants, qui font le choix d'aller dans le monde. Voilà. Mais nous avons une responsabilité, c'est de leur apporter ce que nous avons reçu.
Amen. Voilà.
C'est notre responsabilité. Ces enfants choisiront plus tard. Il y en a qui partent dans le monde, mais ils ont reçu la parole de Dieu en eux. Ils ont reçu cette parole. Mais vous allez voir que tôt ou tard, eh bien, cette parole va finir par agir et elle produira son fruit. Et ses enfants reviendront au Seigneur. Parce que la parole du Seigneur, eh bien, ne peut pas demeurer infructueuse. Il a dit lui-même, sa parole ne revient pas à lui sans avoir agi. Donc, sa parole est puissante, elle est efficace pour agir. Mais nous avons à faire notre part. Le Seigneur, il a fait sa part. C'est lui le roc sur lequel nous bâtissons. Il est établi, solidement établi. Voilà. Maintenant, c'est à nous, eh bien, de bâtir sur l'Europe en tenant compte des matériaux qui conviennent. Est-ce que j'ai encore du temps?
Ça a passé, là.
Bon. On est presque à la fin. Presque à la fin. Donc, on voit que la parole de Dieu est riche. Voilà, elle est riche pour nous. Vous voyez que c'est anodin des fois, mais en lisant ce passage qu'on vient de lire, eh bien moi ça me rappelle l'histoire des trois petits cochons, parce qu'ils ont bâti. Ces chrétiens-là, on nous a dit, Paul dit, celui qui bâtit avec le chaume, avec le foin ou avec le bois, eh bien, sa maison ne résistera pas à l'épreuve du feu. Le feu, il est dans ce monde. Le feu sont les différentes épreuves que nous pouvons traverser. Donc, il convient de bâtir avec l'or, avec l'argent, avec les pierres précieuses, parce que, eh bien, ce matériau-là ne crée pas le feu. Il résiste. Et on le trouve en profondeur. Donc, on doit creuser pour le chercher. Voilà ce qui convient. Voilà. Alors, tout le monde me dira, oui, on veut bâtir, tout le monde veut bâtir sur le roc, mais il y a un prix à payer. Voilà. Il y a un prix à payer. D'accord ? Alors la question que je vais poser, c'est, est-ce que chacun est prêt à payer ce prix ? Est-ce qu'on est prêt à payer le prix ?
Amen.
Êtes-vous prêt à payer ce prix ? Si vous voulez une vie solide.
Alléluia.
Alors, le prix à payer, eh bien, c'est de creuser profondément. Et ça, ça nous parle de la communion avec Jésus. Nous devons avoir une communion profonde avec le Seigneur Jésus. Ne pas nous contenter du superficiel. Parce que si on se contente de ça, ça ne tiendra pas. Voilà. Donc, plus de communion avec le Seigneur Jésus, au travers de la méditation de sa parole, on a dit, hein, que ce livre de la loi ne sera une pointe de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras. Voilà. Donc, eh bien, nous devons avoir cette communion profonde avec le Seigneur Jésus. Ne pas se contenter d'une lecture superficielle, mais de méditer la parole du Seigneur et de vivre. Parce que la parole du Seigneur nous dit que celui qui écoute sans mettre en pratique, il est semblable à celui qui a bâti sur ça. Parce qu'on peut très bien écouter sans mettre en pratique. Voilà. Donc, allons le mettre en pratique la parole du Seigneur. Donc, plus de communion avec le Seigneur, plus de soumission à sa parole. Et puis, nous savons qu'il y a un élément important qui est le Saint-Esprit. Recherchez le Saint-Esprit. On le voit dans la vie des apôtres. Les apôtres, ils ont vécu avec le Seigneur Jésus pendant 3 ans. Ils ont été enseignés. Est-ce qu'il y a un meilleur maître que Jésus ? Il n'y a pas meilleur que lui. Ils ont vécu avec le Seigneur Jésus. Mais on se rend compte qu'à la fin, lorsque le Seigneur s'en va, eh bien, ses apôtres vont flancher. On se rend compte que ses apôtres vont flancher. Pierre, notamment, qui était le premier parmi eux, et Pierre, il faisait partie vraiment du cercle intime de Jésus. Donc on peut dire que c'est quelqu'un, eh bien, qui était intime avec Jésus. Donc il avait une communion profonde avec le Seigneur. Mais ils n'ont pas tenu. Lorsque le Seigneur a été arrêté, qu'est-ce qui s'est passé, Pierre ? Il a relié le Seigneur. Il a relié le Seigneur. Et quand vous lisez ça, c'est étonnant parce que Pierre dira, mais je ne l'ai jamais connu. Que je sois maudit. Il le dit, Pierre. Si je l'ai connu, que je sois maudit si je l'ai connu. C'est quand même fort, ces paroles. Mais le même Pierre, après le baptême du Saint-Esprit, on le voit, dans la synagogue, dans le temple, annonçant la parole du Seigneur. Qu'est-ce qui fait de cette différence ? Eh bien, Pierre, il a été revêtu du Saint-Esprit. Et il dira même qu'il est préférable d'obéir au Seigneur que d'obéir aux hommes qui voulaient, aux hommes religieux qui voulaient l'empêcher d'annoncer la parole du Seigneur. Il nous a dit que Pierre et les autres disciples étaient des hommes du peuple sans instruction. Mais ils ont inondé Jérusalem de la parole du Seigneur. Ils ont inondé Jérusalem de la parole du Seigneur. Et ces hommes sans instruction, eh bien, ils ont bouleversé le monde. Voilà. Eh bien, ça n'a été possible que après le baptême du Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle Jésus va leur dire, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, vous ne recevrez pas le baptême du Saint-Esprit. Mais quand ils ont reçu ça, eh bien, ils ont été transformés. Voilà. Ils ont été transformés. Et puis, il va annoncer la parole. Voilà. Sans crainte, sans peur. Il a été jeté en prison. Mais il n'avait pas peur. Voilà, il a annoncé la parole du Seigneur. Et celui qui avait relié le Seigneur, eh bien, il pétait le feu, finalement. Voilà. Donc c'est important d'avoir une communion profonde avec le Seigneur, mais nous devons savoir que sans le Saint-Esprit, nous n'irons pas loin. Donc, nous devons rechercher ce baptême du Saint-Esprit. Nous devons rechercher cela. Si nous avons soif, réellement soif, eh bien, le Seigneur nous baptisera. Ensuite, nous devons nous engager à le servir. et à vous préserver du péché du monde. Voilà. Donc, voilà les choses qui feront que nous allons tenir lorsque eh bien, les épreuves vont venir. Voilà. Vous connaissez tous quelqu'un, Paul le dira ici à la fin de ce passage, pour lui il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Voilà. Donc celui qui aura construit, sans tenir compte eh bien, d'un homme de construction, eh bien, il nous a dit, sera sauvé, mais comme au travers du feu. Il a dit quoi ? De justesse. Et moi, je connais un homme qui a été sauvé de justesse, comme au travers du feu. C'est Lot. Vous connaissez Lot ? Alors, cet homme, eh bien, il connaissait Dieu, parce qu'il vivait avec Abraham, le père de la foi. Donc, on peut dire qu'il a côtoyé Dieu, il a vu Dieu agir dans la vie d'Abraham, et même dans sa propre vie. Mais cet homme, à un moment donné, il va faire des choix. Il va faire le choix eh bien, de conduire sa famille à Sodome et à Gomorre. Et vous connaissez la suite. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette ville où il y avait le péché? Il a bâti eh bien, sur du sable avec du bâtiment qui n'était pas solide. Il nous a dit que Lot était immensément riche avant sa séparation avec Abraham. Mais il allait vivre à Sodome. Et il nous a dit que lorsque les anges sont venus eh bien, pour leur demander de partir parce que Dieu, dans sa grâce, voulait sauver Lot et sa famille. Parce qu'Abraham avait intercédé pour lui. Dieu voulait le sauver. Et les anges sont venus pour demander à Lot de partir. Est-ce que vous avez vu un peu ce qu'il a fait, Lot? Vous lirez son histoire, on n'a pas le temps de le lire ici. Lot, il a hésité longtemps. Parce qu'il était attaché à cette ville. Il a hésité longtemps parce qu'il était attaché aux choses de cette terre. Il ne voulait pas partir. Il a fallu que les anges le prennent par la main pour l'amener hors de la ville. Et il nous a dit que les gendres de Lot se moquaient de lui. Parce que, eh bien, Lot, il ne le prenait pas pour un homme sérieux. Parce que, eh bien, il a vécu au milieu d'eux. Il a vécu comme eux, il n'a pas été sérieux, il a fait des compromis. Donc, les gens de Sodome et Gomorre qui ont pris ses filles comme leurs épouses, eh bien, ils n'ont pas pris Lot au sérieux. Donc, Lot n'était pas sérieux devant eux. Ils ont dit, oh, ben, tu peux toujours rire, on reste là. Et donc, ils sont partis, Lot et deux de ses filles. Et vous vous souvenez que quand il est parti, il s'est dit que ses deux filles étaient vierges, les deux filles qui étaient dans la maison avec lui. Donc, ce n'était pas les mêmes que celles qui étaient mariées. Donc, Lot est parti avec deux filles au moins. Donc, ça suppose qu'il avait au moins quatre filles. Parce qu'il nous a dit qu'ils avaient des gendres. Donc, la parole de Dieu ne précise pas. Donc, il avait au moins deux gendres, au minimum, puisqu'il nous a dit des. Donc, il en avait deux au moins. Et les filles avec lesquelles il est parti sont des filles vierges. Parce que quand les gens de la ville de Sodome ont voulu coucher avec les anges, puisque c'est ça, il faut le dire clairement, c'était la sodomie, c'est ça, c'est l'origine. Ils ont voulu coucher avec les gens, les anges qui étaient venus, parce que les anges sont venus sous la forme humaine. Ils ont dit, fais sortir ces hommes qui sont rentrés dans ta maison, on va coucher avec eux. Quelle abomination. Quelle abomination. Et c'est parce qu'on connaît de nos jours, dans nos pays. Mais vous souvenez que l'homme a dit, non, ne faites pas cela, j'ai deux filles vierges qui sont dans ma maison, je les fais ressortir. Donc, il avait deux filles vierges. Donc, ça veut dire que quand il avait des gens, il y avait d'autres filles. Voilà. Et quand il est parti, il nous a dit qu'il est parti avec deux filles et sa femme. Ça veut dire qu'il y en a qui sont restés. Donc, Lot, en ayant fait le choix de ne pas eh bien, rester dans la communion avec Dieu, d'aller vivre dans le péché, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il a, en quelque sorte, brûlé toute sa famille. Voilà. Il a détruit sa famille lui-même. Parce qu'il a fait le mauvais choix. Il a détruit sa famille en faisant le mauvais choix. Il a été sauvé comme au travers du feu. Parce que vous vous souvenez que le feu a tombé sur Sodome. Mais lui, il a été sauvé. Mais à quel prix? À quel prix? Il a perdu une partie de sa famille. Et quand il est parti, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, sa femme a été transformée en statue. Celle. Parce qu'elle a regardé derrière, parce qu'elle laissait derrière ses filles. Elle laissait derrière sa maison, sa richesse. D'accord? Voilà. Et parce qu'ils ont fait le mauvais choix au départ. Ils connaissaient Dieu, ils ont vécu dans la présence de Dieu. Mais ils ont fait le mauvais choix. Voilà. Donc, lui, il a dû sauver de justesse comme au travers du feu. Donc, si nous bâtissons sans être sérieux, sans aller en profondeur, eh bien, nous risquons eh bien, d'avoir les mêmes soucis que M. Lot. Et vous vous souvenez, quand il est parti avec les deux filles vierges. Mais, et là encore, il a fait le mauvais choix, il a voulu aller dans une petite ville. et il a bâti encore. Après, parce que quand il est arrivé là, il a eu peur, il est remonté sur la montagne, mais là, il a fait un champ de vigne, et il a planté des vignes. Bon, à un moment donné, on voit que Lot, eh bien, ce qui devait arriver, arriva, parce qu'il s'est mis à boire, il a vécu tout sûrement. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ses deux filles ont couché avec lui. Donc, vous voyez les conséquences du mauvais choix. Ses deux filles l'ont fait boire, et quand il s'est endormi, elles ont couché avec lui, avec le père. Et elles ont donné naissance à deux fils qui sont devenus des ennemis héréditaires du peuple de Dieu. Voilà. Donc, le mauvais choix de Lot, ayant connu la vérité, ayant connu la présence de Dieu, il a choisi d'aller dans le monde, et on voit que ça lui a apporté que du négatif. Voilà. Donc, pour nous, pour vous qui êtes en train de bâtir, eh bien, ne soyez pas comme Lot aussi. Parce qu'après avoir connu Dieu, si on retourne dans le monde, eh bien, la parole de Dieu nous dit que la condition de ce monde est pire qu'avant. Voilà. Donc, Lot, on peut dire qu'il avait un pied dedans et un pied dehors. Un pied dedans et un pied dehors. Alors, vous qui êtes jeune, n'ayez pas un pied dedans, c'est-à-dire dans la présence du Seigneur. Et puis lorsque vous allez au lycée ou au collège, à la fac ou ailleurs, on a un autre pied dans le monde. Voilà. On n'est pas stable. On ne peut pas rester assis entre deux chaises. On n'est pas stable. D'accord? On n'est pas stable. Voilà. Donc, ne soyez pas insensé, comme cet homme qui a bâti sur le sable. Ne soyez pas insensé comme Lot, insouciant, négligent, parce que tôt ou tard, eh bien, on finit par payer les conséquences. On finit par payer ses choix. Voilà. Donc, on finit par payer. Et on paye très cher. Donc, Lot, il a payé très cher. Cet homme qui avait bâti sur le sable, il a payé très cher. Ces hommes qui ont bâti avec des matériaux de surface, le bois, le foin, le chaume, eh bien, ils ont payé très cher parce que leur maison n'a pas tenu. Voilà. Donc, je vais vous exhorter, bien cet après-midi, à bâtir sur le solide en creusant. En creusant. Voilà. Creuser et aller chercher le matériau qui convient. Voilà. Donc, respectons les normes de Dieu, les normes de la parole de Dieu. Mettons notre vie en conformité si on a déjà bâti, si on n'a pas tenu compte des normes de Dieu. Il n'est jamais trop tard, d'accord? Donc, pour celui qui construit, il choisit le bon matériau, d'accord, pour construire. Mais celui qui a déjà bâti et qui n'a pas tenu compte des normes, eh bien, il n'est jamais trop tard, d'accord? Il peut toujours mettre sa maison en conformité avec les normes de Dieu. C'est possible. Alors, qui sait, tu veux bâtir sur l'Europe? Qui sait, tu veux bâtir ce soir sur l'Europe? Moi, je veux bâtir ma maison sur l'Europe, qui est Jésus. Amen. Qui sait, tu veux choisir des matériaux solides? Amen. Voilà. Donc, amen, amen. Amen, amen. Donc, voilà quelques paroles que je voulais vous laisser pour que vous qui êtes jeunes, bien, vous puissiez faire le bon choix. Alors, on va laisser donc la place à Brice. On va passer un moment à la prière aussi. Voilà. Parce qu'on veut que le Seigneur agisse en profondeur, que ce soit dans nos cœurs. Et que la parole que nous avons reçue, eh bien, ne puisse pas s'envoler. D'accord? Que cette parole ne puisse pas s'envoler.